and gentlemen.
Président, Seigneur Deacon. On va voir si vous applaudissez à la fin de la session. Hein? Merci de prendre le temps de venir présenter cette session. Ici sur la scène avec moi, nous avons Samantha Eisner et Margie Mylan, Deacon, et de l'équipe de négociation des bureaux d'enregistrement. Nous avons Rob Hall, de Momentus, et Matt Serlin, de Martin Monitor, de Mark Monitor, pardon. Et si Volker vient, il nous rejoindra ici sur la scène. Pour pouvoir réussir cette session, on aura besoin de recevoir vos commentaires par rapport à certains problèmes de ces négociations de négociations de bureau d'enregistrement RAA. Cette négociation devra changer et améliorer la situation actuelle et particulièrement les spécificités dans le mode d'utiliser les noms de domaine des bureaux d'enregistrement. C'était un énorme travail. Eh bien, qu'on les décrit en tant qu'une négociation bilatérale, nous savons qu'il y a d'autres parties très intéressées. Et l'exemple principal, bien sûr, est celui des représentants du respect de la loi qui ont fait des recommandations très spécifiques sur la mise en place du RAA. Nous avons aussi des recommandations du groupe de travail de la GNSO. C'est un groupe qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et au moment où on était ensemble, à table, et on considérait les représentants qui travaillaient et les recommandations qu'ils avaient faites, on se demandait, lorsqu'on discutait la practicité et l'utilité de ces modifications, on se demandait comment, à part de l'aspect du respect de la loi, si on travaillait beaucoup et on vous rendait des recommandations qui étaient différentes, est-ce que vous allez l'apprécier? Nous avons ici avec nous, alors, finalement, Volker. Est-ce qu'on avait le droit de modifier les recommandations ou alors est-ce que vous avez désapprouvé ceci une fois qu'on vous les rendait? Ou alors est-ce que vous allez être d'accord avec les recommandations et les modifications qu'on leur faisait? Cet accord qui va changer sur la façon dont on se sert des noms de domaine va affecter le coût des noms de domaine. On ne savait pas quelle serait la réaction de la communauté. Et donc, on considérait tout ceci. Et pour nous, il est très, très important d'avoir l'avis de la communauté le long de ces négociations. Et ce qui est difficile aussi est de comprendre que la négociation est précisément une concession mutuelle. On devait comprendre les problèmes principaux. C'est la vérification de WHOIS et les données WHOIS. La rétention de données, l'accès aux données pour que l'application de la loi puisse retourner à vous de la façon dont vous la voulez. Et donc, cette concession mutuelle dans cette négociation implique le fait que tout le monde veut obtenir et personne ne veut concéder. Donc, on a passé une longue période de négociation. Et on a réussi à avoir l'accord sur plein d'améliorations et plein de problèmes. Mais on a dû faire des modifications finales pour pouvoir continuer d'avancer. Mais pour nous, il est très important de réussir à faire tout ce que nous avons déjà mentionné. Voilà pourquoi je vais passer mes diapos. Et vous allez voir ici la façon dont nous avons conçu ceci, c'est de passer le micro dans la salle pour que tout le monde puisse faire ses propositions. On a reçu des propositions de LE, de la GNSO, d'ALAC. Et donc, pour pouvoir vous fournir autant d'informations que possible, nous voulons vous donner les meilleures contributions. Et principalement, je voudrais dire qu'on veut consacrer tout ce temps à vous lors de cette session et à vos commentaires. Donc, on a passé beaucoup de temps beaucoup d'heures. On a beaucoup dépensé en billets d'avion, en appels téléphoniques, pour parler du respect de la loi, de l'application de l'ALAC. Et les équipes d'ALAC, de la GNSO et les bureaux d'enregistrement ont fait des améliorations et ils les ont proposées pour qu'on les mette en place dans l'accord. Et ils ont organisé des activités de conformité. Et on a publié pas mal de travail qu'on a déjà fait. Et on veut vous fournir autant d'informations que possible, comme j'ai dit. Et donc, ICANN a publié une version préliminaire du RAA. Ce n'est pas une version négociée, mais c'est une version préliminaire. Et on a pensé que ce serait utile que vous la voyiez, parce qu'au lieu de parler dans l'air, vous aurez un contrat réel à voir pour pouvoir parler des spécificités de ce que vous pensez être une bonne amélioration, une bonne modification que vous pourriez approuver. On a aussi publié des résumés et une déclaration en même temps pour que vous voyez qu'on a réussi à avoir du consensus dans plusieurs domaines et qu'on a consensus dans une partie de l'accord. Et donc finalement, sur les 12 recommandations d'ALAC et de la GNSO, on a trouvé 4 domaines clés et on voudrait parler des premiers deux secteurs principaux. C'est la vérification et la validation de WHOIS, c'est-à-dire l'amélioration de la précision de WHOIS, et puis le fait que les bureaux d'enregistrement puissent conserver des données et le délai de temps pendant lequel ils pourraient le conserver. Par rapport aux autres problèmes qu'on a identifiés, qui serait clé, à notre avis, on a déjà fini, ce serait la vie privée et les obligations des fournisseurs du proxy. On a trouvé un programme d'accréditation des fournisseurs proxy et l'accréditation en même temps pour adopter le programme d'accréditation de proxy qu'on a développé et en même temps pour fournir le contact. On a beaucoup travaillé sur le détail des procédures que les bureaux d'enregistrement devraient maintenir avec le point de contact et la vélocité ou la vitesse avec laquelle ils devraient réagir. Et donc, le long de cette session, nous allons vous demander vos contributions sur ces deux premiers points. Et donc, heureusement pour vous, ce serait la fin de mon exposition en ce moment et Margie va nous parler des recommandations de la GNSO que l'on a négociées. Vous m'entendez? Bien. Comme Kurt vient de dire, la GNSO et l'ALAC ont formé une équipe pour la rédaction de l'accord que l'on a évalué le long du processus de négociation. Si vous voyez les documents qu'on a publiés, vous verrez que beaucoup des problèmes sont simultanés avec, se superposent avec les recommandations, mais sont spécifiques pour l'équipe de rédaction qui les a évalués et on a un langage que l'on a proposé. Donc, par exemple, on parle d'une collection améliorée d'informations d'affiliés et des bureaux d'enregistrement et on se rend compte qu'on a besoin d'avoir davantage d'informations que les bureaux d'enregistrement devraient réunir, ainsi que d'informations additionnelles sur les affiliés et les bureaux d'enregistrement ou alors le type de proxy qu'ils fournissent. Et puis aussi la disponibilité de WHOIS SLA. C'est un point que l'on va négocier et on a présenté une demande pour que l'on ait davantage de langage pour lutter contre le cybersquatting, le cybersquattage, pour aborder spécifiquement ce problème. Et on a bien sûr discuté ce point lors des négociations. Et puis, les bureaux d'enregistrement, en même temps, doivent être responsables de l'accès des affiliés et des revendeurs. Et on a aussi discuté ceci lors des négociations. Et donc, ayant dit ceci, je vais passer la parole à Matt, qui va nous parler des propositions des bureaux d'enregistrement. Merci, Margie. C'est Matt qui prend la parole. On va voir la diapo suivante. Donc on vient de surligner les quatre propositions clés des bureaux d'enregistrement. C'est les propositions qu'ils ont fait lors des négociations. Et donc les premiers deux points sont pour l'alignement des propositions du nouveau RAA avec l'accord actuel. Ceci fait partie du programme pour l'aligner avec le processus et le manœuvrage des négociations. Le deuxième point est l'élimination du port 43 pour les obligations WHOIS pour les GTLD gros. C'est-à-dire qu'avec un registre gros, l'opérateur du registre prend les données et administre toutes les informations du WHOIS. Mais jusqu'à présent, les bureaux d'enregistrement ont l'obligation de gérer ce registre pour les GTLD spécifiquement aussi. Et donc, les opérateurs de GTLD devraient être considérés la source de ces données. Quant aux politiques de consensus, on voudrait les aligner avec les nouveaux accords de registre GTLD, ce qui devrait être cohérent avec ce qu'on a actuellement sur l'accord avec les bureaux d'enregistrement. Ceci est écrit, bien sûr, dans notre langage qu'on a proposé. Et puis, on a un autre point qui est un peu dispositif, c'est le fait de simplifier l'accréditation automatique dans tous les nouveaux GTLD. Pour nous, il s'agit d'un point qui améliorerait et augmenterait notre efficience pour les centaines de nouveaux GTLD que nous allons offrir dans l'avenir. Donc j'ai fini maintenant. C'est Sam qui va prendre la parole. Sam Eisner parle. Quand je suis arrivée à la négociation avec des idées qu'ICANN voulait améliorer l'accord pour des moyens de conformité, pour améliorer l'accord actuel. Et donc ce que j'ai proposé était une demande d'outils de conformité. Donc, j'ai présenté une demande pour avoir une disposition de termination, de conclusion pour le RAA avec une suspension que Matt avait proposée, ou une méthode de suspension plutôt. Et donc, c'est la façon dont ICANN a considéré qu'on pourrait signer un contrat qui serait un meilleur outil pour qu'on se serve de lui en tant que moyen pour la conformité. On ne voulait pas voir des délais plus longs dans les arbitrages qu'ICANN a traversé le long du temps. On a aussi vu des problèmes techniques et on les a abordés, tels que la mise en place d'IPv6 et le DNS5 et les protocoles IDN. Et à mesure que la communauté Internet avance dans ces nouveaux standards, les bureaux d'enregistrement devraient pouvoir les supporter. En outre, nous avons des dispositions que nous avons vues, telles que la position ou la révocation. En ce moment, on est sur le point d'entrer sur le nouvel accord d'IPv6. Et une fois que le programme des nouveaux GTLD soit fonctionnel avec l'intégration avec les opérateurs des bureaux d'enregistrement et des registres, et puis le modèle des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre devrait se modifier et ajouter des outils pour que la communauté ICANN puisse mieux profiter de ce modèle. Et c'est le propos que nous nous sommes fixés. Merci. Merci, Sam. Donc, Kurt Pricht reprend la parole. Nous voudrions donc avoir vos contributions sur trois points spécifiques aujourd'hui. Nous savons qu'il y a d'autres thèmes, d'autres sujets que la communauté voudrait discuter aujourd'hui, et nous vous encourageons à le faire, à lire les matériels que nous avons publiés, à faire vos commentaires à travers le wiki de la communauté. Et vous avez d'autres formulaires qu'on pourrait vous fournir pour recevoir la contribution de la communauté. Donc, comme je viens de dire, on voudrait discuter trois sujets. C'est la vérification de données WHOIS, puis la retention de données WHOIS, et en troisième lieu, les méthodes à travers lesquelles on pourra rapidement faire que le nouvel accord soit applicable sur les 1000 bureaux d'enregistrement à peu près et comment ils pourraient s'en servir pour assurer que tout le monde soit d'accord avec cette convention pour pouvoir conclure l'étape de négociation. Le premier est le plus complexe. Il pourrait affecter la communauté gravement. Et c'est le fait de la vérification who is. On a plusieurs modèles que l'on a déjà discutés. Du dernier trimestre, on a reçu des recommandations et ICANN les a adoptées en tant que position pour les négociations et je pense qu'on devrait maintenir ces points. Ce serait quel type de vérification devrait inclure l'accord et les délais de vérification. Et ces deux points, bien sûr, auraient des conséquences pour les expériences des utilisateurs et des bureaux d'enregistrement. Est-ce que la vérification devrait se faire avant la résolution du nom? Est-ce que ceci modifierait la façon dont on assigne les noms? Aujourd'hui, on assigne un nom de domaine et ceci se résolue tout de suite. Est-ce que la vérification devrait se faire avant? Est-ce qu'on devrait avoir un manuel pour la vérification? Ceci, bien sûr, augmente les délais pour la vérification. On ne sait pas comment ceci va être mis en place entre un modèle et l'autre. Et puis, ceci implique, bien sûr, un coût et on voudrait que le coût soit minimum. Et c'est dans la façon dont on résolue la vérification. Quels seraient les bénéfices donc qu'on fournirait pour justifier l'augmentation du coût? Est-ce que ceci, en même temps, améliore les outils d'application de la loi? Est-ce qu'on réduit les abus? Donc, ce sont des questions fondamentales et on voudrait voir certaines diapos avec vous pour que vous puissiez nous suivre. Donc, Sam Eisner reprend la parole. Bien. Donc, nous voudrions encadrer les problèmes par rapport à la vérification de données WHOIS avant de vous passer la parole pour que vous posiez vos questions. Ces questions viennent principalement du document résumé que nous avons publié avant cette réunion. Et en outre de la vérification de données WHOIS, un bureau d'enregistrement pourrait avoir des obligations pour contacter un bureau d'enregistrement à travers le téléphone ou que ce soit par SMS ou pour laisser un message dans la boîte vocale ou alors ce message pourrait être retransmis, disons, à travers un téléphone en tout cas. Et il devrait avoir un numéro de téléphone pour contacter le bureau d'enregistrement concernant la vérification. Donc, on voudrait que vous considériez et que vous nous donniez vos impressions sur les impacts que ceci pourrait impliquer pour les registrants. Est-ce qu'on devrait avoir un numéro de téléphone? Est-ce que ce serait un problème ou ce serait disponible pour les différentes régions du monde? Est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes par rapport à la langue dont se servent les bureaux d'enregistrement? Est-ce qu'on devrait parler en une langue spécifique ou alors écrire dans une langue spécifique si c'était à travers email? Est-ce que ceci limite la capacité de contacter les bureaux d'enregistrement? Est-ce que ceci crée une charge additionnelle pour les bureaux d'enregistrement? Est-ce que ceci implique des problèmes de privacité pour que les numéros de téléphone associés à un enregistrement passent au bureau d'enregistrement au lieu de revenir à eux? Ou alors, est-ce qu'on devrait fournir donc la vérification à travers téléphone ou SMS? Dans cette diapo, nous voyons l'aspect du délai de la vérification. Il va être décrit en tant que pré- ou post-résolution et la vérification avant ou après la résolution. Et donc, en ce moment, toutes les informations sont validées ou vérifiées après le moment où le nom de domaine est résolu dans le DNS. Donc, la personne qui a déjà la capacité de se servir de ce nom de domaine sur Internet avant la vérification ou la validation. Dans la demande pour application de la loi, nous avons vu la demande de vérification de certains noms de domaine avant la résolution de certains noms de domaine. Donc, si ceci est fait avant la résolution du nom de domaine, au lieu d'être fait dans l'étape suivante, est-ce qu'on devrait faire la vérification à travers téléphone ou email, l'une ou l'autre serait un bon moment pour qu'on le fasse de façon différente. Mais en tout cas, ceci pourrait aboutir dans un empirement des attentes des utilisateurs. Si ceci se résolvait automatiquement, ce ne serait pas ainsi, mais maintenant, on doit attendre jusqu'à la vérification. Donc, comment ceci impacte l'expérience de l'utilisateur? Bien, dans cette diapo, on voit le problème de la revérification annuelle. L'une des demandes pour l'application de la loi, alors que nous avons vu depuis ce point de vue, est que le bureau d'enregistrement doit revérifier les informations des registrants de façon annuelle. Donc les questions que nous vous présentons sont si ceci représentera une charge additionnelle pour les registrants, ou alors si on n'a pas le temps de l'avoir revérifié, est-ce que le nom de domaine pourrait trouver son échéance, ou alors on pourrait le supprimer parce qu'il n'a pas été revérifié, ou alors est-ce qu'on aurait des conséquences non désirées pour que les personnes changent d'adresse email ou passent à un système email? Est-ce que ceci serait un nouveau fardeau pour les utilisateurs? Est-ce que ceci serait proportionnel quant aux implications pour les registrants? Dans deux secondes, je vais passer la parole. Mais en fait, je voudrais qu'on rementionne, et ceci n'est pas sur la diapo, la vérification à travers email. Si on fait la vérification à travers email avant la résolution, ceci veut dire que lorsque les registrants font l'enregistrement, il doit fournir une adresse email avec le bureau d'enregistrement. Si on a l'attente que le nom de domaine ou l'adresse email soit associé à un enregistrement, on espère avoir des informations telles que l'adresse email associée à cet enregistrement. Donc, si j'enregistre une adresse .org, je voudrais enregistrer Samantha Eisner @icann.org, même si le .org n'est pas un nom de domaine. Et donc, ce qu'on cherche est une vérification avant la résolution. Et donc, les registrants devraient avoir une adresse email fonctionnelle au moment de l'enregistrement, ce qui ne serait pas l'adresse email associée à ce domaine. Ce serait donc le point qui pourrait avoir un impact sur les attentes des registrants et les problèmes que ceci pourrait impliquer pour eux. Voilà, donc nous voudrions avoir vos commentaires. Et je voudrais juste faire un commentaire. C'est Kurt Pritz qui reprend la parole. Ce sont principalement les questions sur lesquelles on voudrait votre avis. Et quand est-ce que la vérification devrait se faire? Les recommandations d'application de la loi incluent l'adresse email, le délai de vérification. Est-ce que ça devrait se faire avant ou après la résolution? Est-ce qu'on devrait faire une revérification annuelle? Vous pouvez demander l'avis des bureaux d'enregistrement ici présents pour comprendre comment ils croient que l'expérience pourrait être affectée. On pourrait demander des questions et vous demander de présenter des prépositions pour pouvoir réussir cet accord. Je vois qu'on a plein de monde qui veut prendre la parole. Je suis James Agontari, un bureau d'enregistrement. Je ne suis pas membre de l'équipe de négociation. Avant de rentrer sur ces questions, je voudrais savoir pourquoi on ne discute pas les problèmes d'enregistrement. Bon, en fait, parce qu'on a une heure et demie et on croit ce sont des questions de préoccupation par rapport aux politiques, mais on veut que tout le monde discute les politiques de vérification. Oui, je pense que ceci affecte la communauté. Ce n'est pas une bonne idée de continuer dans cette voie et de ne pas considérer ce que je viens de dire. Bonjour, je suis Steve Metalitz. Je suis le président du regroupement de propriété intellectuelle et j'étais le président de l'équipe de rédaction RAA entre la GNSO et la LAC. Et on parle parfois de la GNSO et je voudrais savoir Je voudrais dire plutôt que nos collègues d'ALAC ont fait une grande contribution. Ils ont de grandes connaissances et connaissances là-dessus et devraient être inclus ici. Je voudrais remercier ICANN et l'équipe pour avoir présenté un texte qu'ils avaient proposé. Je pense que ce serait très utile d'avoir une langue proposée pour le contrat et ils pourraient voir que c'est dans le matériel qui a été publié sur Internet et je n'ai pas pu le reconsidérer et je n'ai pas pu le lire. Donc, on n'a pas pu répondre aux propositions concrètes. Donc, par rapport à la vérification des données WHOIS, nous apprécions les progrès que vous avez faits là-dessus. Et je pense que c'est un premier pas très utile, très positif. Et nous encourageons les bureaux d'enregistrement à essayer de nous rejoindre avec de rejoindre la proposition que ICANN a faite. Nous ne croyons pas. En fait, ceci représente une grande modification dans la façon dont nous faisons nos affaires. Et parfois, ce n'est pas la meilleure stratégie d'essayer de le faire en deux pas. C'est un grand tournant. On considère la capacité d'email et du numéro de téléphone que vous avez mentionné qui ne sont pas utiles en termes de vérification. On a des systèmes de vérification commerciaux qui couvrent une quantité de juridictions et bien que ce ne soit pas une réponse complète, on est déçu de voir qu'on n'a pas de demande pour que les bureaux d'enregistrement se servent de ces données. On devrait leur donner une façon de les encourager à s'en servir de façon commerciale pour ces enregistrements. Je pense qu'il y a une grande brèche dans cette proposition que j'ai vue là sur vos diapos et c'est que ceci ne fonctionne pas de la façon, le système proxy ne fonctionne pas ainsi. Pour les fournisseurs des systèmes proxy, ils devraient faire ces vérifications, mais ils peuvent prendre les informations fausses qu'ils veulent et le prendre en tant qu'information de contact. Et même si c'est un succès dans la façon dont vous contactez, ça pourrait ne pas être utile. Donc, je comprends ce problème que Kurtz a mentionné en termes d'accréditation des proxys et des serveurs proxys. Mais dans IPC, on est d'accord avec vous. Mais ceci constitue une grande brèche. Et donc, lorsqu'on impose des demandes d'enregistrement, on devrait contrôler les serveurs proxy et tous les services proxy qui seraient fournis. Sinon, c'est un grand espace blanc. Merci de ton commentaire, particulièrement pour ce qui est des services proxy. On reconnaît tous que c'est un grand point qui pourrait mal fonctionner et vous avez vu la référence au service d'accréditation proxy que Kurt a mentionné dans une des premières diapos, mais nous pensons que l'un des aspects clés de ce type de requis devrait faire partie du système d'accréditation pour qu'il soit égalitaire. Oui, je recommande qu'on l'inclue dans le contrat en ce moment et que quand l'accréditation atteigne ce point, ça fonctionne. Mais sinon, on va atteindre une situation où le processus d'accréditation, et on aura plein de questions là-dessus, et on va trouver qu'on a un espace qui n'a pas été contemplé. C'était Steve qui parlait. En ce moment, Robert Hall prend la parole. Steve, je voudrais dire que les bureaux d'enregistrement sont d'accord avec ce point dans cette vérification. Et même si on ne vérifie pas la contactabilité, la capacité de contacter cette adresse e-mail ou cette adresse postale, peut-être qu'on invente un code postal qui n'est pas vrai. Par exemple, j'habite en Californie, en Canada, à Denver, et mon code postal et mon numéro de téléphone est numéro 2. Et je pense que ce n'est pas là-dessus qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la validation, je pense que l'enregistrement est international et on a des standards publiés internationalement et on va y adhérer. Steve dit, bon oui, c'est très utile, mais c'est trop basique. Et l'enregistrement commercial et la validation des adresses commerciales et les services de vérification des adresses sont au-delà. 4 francs la parole. Bon, est-ce que ta recommandation inclut l'accréditation, le programme détaillé d'accréditation proxy, Steve reprend la parole. Oui, si vous allez suivre l'approche d'accréditation, on requérait que le délai dans lequel le nouvel RAA va commencer à fonctionner, on n'acceptera pas les enregistrements proxy des services qui ne font pas la vérification de données. Mathieu les prend la parole. Oui, lorsque Kurt a dit qu'on était d'accord avec la mise en place d'un programme, on a de toute façon contemplé le fait qu'un service proxy devrait être fait à travers un fournisseur proxy accrédité. On ne sait pas quels sont les paramètres du programme proxy ni l'accréditation, de toute façon. Steve dit oui, oui, c'est ça qui me préoccupe. Amri Dorian prend la parole. Bonjour. Je vous parle pour la première fois en représentation d'une société, d'une communauté, et je vous parle pour la communauté .gay, et ce qui me préoccupe est la contribution que vous avez reçue, et je pense qu'elle était trop tendancieuse en termes des agences d'application. Nous n'avons jamais entendu parler des autorités de protection de données ou alors les autorités de vie privée de plusieurs pays. Et je pense qu'en plusieurs cas, vous allez voir que certains de ces requis fonctionneraient avec la loi régionale et la loi nationale ou la loi de n'importe quel traité. En outre, je voudrais dire que lorsqu'on parle d'agence d'application de la loi, on pense toujours au bien. Mais lorsque vous avez mentionné les agences du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, oui, c'est ça. Mais lorsqu'on parle des agences d'application de la loi en Ouganda, particulièrement pour la communauté gay, ce n'est pas de gens qui veulent le bien de la communauté. On parle de gens qui n'adhèrent pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parle de gens qui, en cas d'avoir cette vérification ou ces informations, on ne sait pas qui ils sont ni comment les contacter. Et on est en train de menacer les gens de prison et même de mort. Donc, si on le considère avec le point de vue d'application de la loi occidentale, on n'a même pas besoin de vérification de données. Et puis, on ne considère pas les structures légales que les gens doivent respecter dans les communautés. Et ce n'est pas seulement pour la communauté gay, c'est pour toutes les communautés de libre expression au monde. On n'est pas en train de considérer une proportion de la population. Vous vous demandez comment ceci affecte le marché, les bureaux d'enregistrement, les registrants, mais ceci va mettre en danger le reste des communautés différentes. Donc, s'il vous plaît, considérez-les, incluez-les. Merci, Amri. C'est Kurt Pritz qui reprend la parole. Le point suivant que nous allons considérer est l'impact des lois de privacité et l'effet qu'il a. Et c'est un domaine confus parce qu'on n'est pas sûr de la pratique de la privacité. Merci. Bonjour, je suis Bill Smith. Je représente PayPal. Je suis un ancien membre de l'équipe de révision de WHOIS. J'ai une suggestion à faire parce qu'on a revu la diapo que Soka nous a passée lors de la dernière réunion. On a vu qu'il y avait plusieurs modèles, plusieurs méthodes que l'on peut utiliser si c'est une analyse qui se base sur les risques pour enregistrer un nom, les délais, ce qui devrait se passer lorsqu'on enregistre un nom, ou en fait, si on devrait avoir une détermination qui se centre ou qui se fonde sur le fait qu'on puisse établir un contact. Avec la suggestion de la vérification à travers email, je pense qu'il est très raisonnable de considérer qu'un registrant devrait fournir une adresse email valide. Je pense que qu'on ne va pas enregistrer un nom de domaine sans une sorte d'adresse email ou de façon de communiquer à travers Internet. Sinon, ce ne serait pas utile d'avoir un nom de domaine qu'on ne peut pas contrôler. On devrait avoir un système WHOIS d'information précise. Et c'est l'un des buts de l'affirmation des engagements. De toute façon, je demande pourquoi le contrat et le contrat des tiers parties est négocié de façon bilatérale si un accord est modifié et il doit être signé par les bureaux d'enregistrement, dans ce cas dans les opérateurs de registre. Mais pour le cas des bureaux d'enregistrement, selon l'article 2.3, 2.4, particulièrement à mon avis, les négociations qui ne tiennent pas compte de la communauté, qui sont bilatérales et privées, ne font pas partie des politiques d'ICANN. Donc, je pense que cette négociation n'opère pas dans le cadre de la politique. Tous les contrats devraient être reconnus et exécutés, mais avec la conformité de la communauté. En plus, les registrants doivent entrer et doivent être conforme avec les requis que vous avez. Mais ICANN et les bureaux d'enregistrement ne peuvent pas s'engager dans des négociations bilatérales privées. Et c'est inclus dans l'article 3.7.7 du contrat actuel. Et nous ne sommes pas une partie contractante. Mais ceci devrait réunir les requis des termes que l'on nous applique. Ce n'est pas juste. Donc, ce système, pour moi, je ne parle pas en tant que représentant de PayPal. Je parle dans mon propre droit, de mon propre droit. Et c'est une industrie qui est fondée par les registrants et nous n'avons pas de voix, je pense, dans ce processus que nous devons respecter. Je pense que c'est un processus failli et que le DNS dans cette organisation pourrait être amélioré. Je suggère que le directoire, les équipes, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre devraient trouver, je vous suggère, de trouver un mécanisme qui soit meilleur. Et je pense qu'on n'a même pas fait de progrès dans ce dernier temps. Merci. Merci, c'est dit Gertrude. Donc, quel est le mécanisme alternatif dont tu parles? La raison pour les négociations et, à mon avis, la raison pour laquelle le directeur d'ICANN a demandé qu'on fasse ces négociations est parce qu'ils ont identifié une façon d'avancer puisqu'ils ont vu 12 recommandations d'application de loi très spécifiques en tant que façon de faire des progrès pour ces deux parties. Et deux parties peuvent, comme je dis, faire un grand progrès lorsqu'ils s'assoient à table ensemble. Mais lorsqu'on adopte ces modifications, ceci ne veut pas dire que les résultats des entretiens doivent être révisés sans un modèle du haut vers le bas. Et donc, la communauté est considérée ici. Et si vous entendez les personnes dans cette salle et les personnes de la communauté, vous allez voir qu'on ne peut pas dire qu'on a fait un échec dans les négociations ou dans l'application de la loi sur la communauté. Donc, ceci est conçu comme un mécanisme pour avancer rapidement, mais en même temps, ceci a des contributions ascendante, réelle. Et puis l'autre processus qui a été révisé a aidé à faire le processus avancer. Donc ceci nous a servi pour que le processus avance du point de vue du directoire. Et le directoire a demandé à la GNSO d'entreprendre les PDP, les aspects qui ne concernent pas le besoin du PDP. Et donc le directoire nous demande de suivre un processus duel, l'un à travers ces négociations et l'autre à travers un PDP formal. Ce sont les deux mécanismes que nous avons à présent. Mais en définitive, tout doit être révisé par tout le monde et le directeur ne peut pas approuver des recommandations qui pensent qu'ils vont avoir des effets réels et c'est ce qui affecte les utilisateurs et la communauté que vous mentionnez. Je suis Robert Hall. Je voudrais demander une clarification, Bill, parce que tu dis que la vérification par mail devrait être faite et dans un délai spécifique, mais parfois ceci se passe avant d'entrer dans la zone. Bill Smith reprend la parole. Oui, on devrait essayer de faire une vérification en temps réel. Et si on voit la proposition de SOCA, la diapo que vous avez montrée était une présentation claire de la quantité de façons dont on pourrait faire la vérification. Donc, ma suggestion n'est pas de le mettre dans la zone. Je vais répondre à Kurt. En ce moment, PayPal a fourni des propositions pour la façon dont on pourrait faire les négociations. Et en tant qu'exemple, on croit que le système DNS, pour toute la communauté ici présente, est supporté par des fournisseurs de services, des bureaux d'enregistrement, des opérateurs de registre, et qu'on devrait fournir un contact entre les deux parties. On devrait l'encourager. Donc, la partie qui demande le service est celle qui décide quels sont les termes du contact, n'est-ce pas? Et donc, on voit qu'on a deux parties, un fournisseur du service et une partie qui demande le service, qui mène des négociations. Et les termes sont spécifiques et on leur dit, bon, c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends, c'est ça que je veux avoir en tant que service dans ces domaines et vous devez réussir et réunir les requis que je vous présente si vous voulez fournir ce service. Donc, ceci est clairement contrôlé par la corporation ICANN et ça devrait être abordé du point de vue d'ICANN en tant qu'organisation. Si vous prenez nos contributions, vous aurez une négociation, non pas une équipe de négociation, ni contractant, ni une équipe de rédaction qui produit un contrat avec des politiques qui sont séparées du contrat, clairement séparés. Donc, le contrat devrait être stable, mais les politiques sont celles qui vont changer dans le temps. Et en ce moment, on a des politiques dans le contrat et il est difficile, bien sûr, de penser aux politiques en même temps que de considérer les propositions des bureaux d'enregistrement. Mais on devrait voir quels sont les mécanismes pour le mettre en place. C'est ça qu'on a présenté dans la proposition. Je suis Wendy Seltzer du groupe d'utilisateurs non commerciaux, des parties prenantes non commerciales. Je voudrais dire que les noms de domaine fournissent une location contrôlée par l'utilisateur. Donc, nous parlons d'un discours que l'utilisateur peut contrôler. Et en tant qu'industrie et communauté, je pense qu'on devrait être ravis de voir que les gens pensent à présenter une campagne politique ou une démonstration ou une entreprise. La première chose à celle qui pense, c'est de lancer un site web pour pouvoir contrôler de façon indépendante de leur activité pour que les personnes qui participent d'une démonstration ou qui postent des tweets en temps réel doivent enregistrer un nom de domaine. Et donc, ayant dit ceci, je pense que lorsqu'on considère les questions que vous posez, on se demande comment ces modifications impactent le registrant qui veut se servir immédiatement du nom de domaine pour centrer sa campagne et la vérification qui requiert qu'ils aient accès à un téléphone qu'ils n'ont pas peut-être avec eux ou avoir une adresse email contrôlée par une tierce partie parce qu'ils n'ont pas enregistré leur propre nom de domaine et puis on leur demande d'intervenir les communications. Si une personne est dans une démonstration politique et ils essaient d'être l'hôte de ce discours de dissidence et ils fournissent leur adresse email, mais ils ne peuvent pas accéder à leur adresse sur Gmail parce qu'on sait que dans certains pays, tels que la Syrie, l'attaque fut lancée à travers des certifications fraudulentes et avec des attaques. Et ils ont forcé les personnes à traverser des vérifications et ils n'ont pas. Pourriez-vous pas donc recevoir la confirmation ou la vérification pour pouvoir publier leur discours à travers Internet et ceci est un obstacle pour leur activité. Et donc, je vous dirais que le système que nous avons à présent, où l'on ne requiert pas de vérification, est un bon système. Vu qu'autant de questions assument ou présupposent qu'on avance dans le système de vérification, je voudrais ajouter certains commentaires là-dessus. Et je pense que si on requiert la vérification, ce ne devrait être qu'après la résolution du nom de domaine et non pas avant. On ne devrait pas être requis d'attendre jusqu'à ce qu'on obtienne ce point de situation, de localisation, au lieu que d'attendre lorsqu'on est en train de faire partie d'une démonstration politique. On ne devrait pas mettre en attente notre démonstration jusqu'à ce qu'on puisse résoudre notre nom de domaine. Et on devrait considérer les coûts, vous avez dit. Bien sûr, ce n'est pas un coût représentatif pour une entreprise multinationale s'ils doivent attendre jusqu'à la résolution du nom de domaine. Mais pour une personne qui vient de passer des services gratuits de Twitter, de blog et ce sorte de communication envers un système plus permanent et plus stable, même 5 $ d'ajout au coût de vérification est une grande barrière. C'est un obstacle qui les fait penser deux fois avant de le faire et on ne sait pas vraiment quels seraient les coûts économiques ou combien de ces coûts seraient transférés aux enregistrants, mais pour les organisations à but non lucratif et pour le petit utilisateur, on devrait être préoccupé même par les petites augmentations dans les coûts. Et puis le coût non économique d'être forcé à passer par une vérification, même attendre une résolution, c'est un coût sérieux que ça représente. Donc je pense qu'on devrait présenter davantage de commentaires concernant les problèmes de vie privée et les préoccupations que ceci représente pour le discours anonyme. Et je pense qu'il est important que, avec les demandes d'application de la loi dont vous parlez, que vous considérez les lois de privacité qui respectent, bien sûr, et qui observent les règles nationales, et ceci pourrait être ou représenter un conflit avec la ligne. Je vais passer à la fin de la queue pour continuer à parler. Bien, je pense qu'on va finir la ligne avec Mike, qui est à la fin de la queue, et puis on parlera de la rétention, qui est un sujet un peu relationné. Donc, je demande d'avoir 30 secondes de plus, mais on me donne 20, bien. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que l'anonymité de discours est un droit des États-Unis et un composant important en tant que droit de l'homme. Et donc, tous les besoins de vérification humaine de l'identité, même comme le fournissement du numéro de téléphone pour l'identification d'une personne, serait une violation, un viol de ces droits de l'homme pour la liberté de discours. Je pense que tu pourrais parler en tant que personne anonyme en ce moment. Bonjour, je suis Bénédicte Addis et je représente l'équipe d'application de la loi pour l'FBI. Je suis pour le LI2 de Bobby Flame du FBI. Et je pense que Bobby a commencé à travailler et il a avancé dans le processus depuis que je me suis engagée. Et je pense que c'est une félicitation pour tous ceux qui ont travaillé dessus. Et je pense que quand on croyait avant que les bureaux d'enregistrement et les enregistrants ne parlaient même pas la même langue. Et donc les équipes ICANN. Et en fait, tout le monde éprouve et travaille de bonne foi. Et on comprend tous où on en est, des deux côtés. Et donc, je pense qu'on devrait féliciter tout le monde parce qu'on ne l'a pas dit assez. Mais je voudrais parler maintenant de ce que Wendy vient de dire par rapport aux préoccupations de vie privée. Et l'un des changements principaux dans l'application de la loi a été l'une des exceptions de la vie privée et des services proxy. Et c'est un grand changement pour le soutien de ces aspects. Il faudrait comprendre quelque chose qu'on a dit lors de la réunion de Costa Rica, que si on permet les gens de se protéger, ils vont nous donner des informations qui seront meilleures, naturellement. Je pense qu'il est important de le dire. Je voudrais clarifier ou expliquer pourquoi l'application de la loi a un impact sur WHOIS et pourquoi ça nous importe. On sait déjà, et on a entendu parler les bureaux d'enregistrement là-dessus, que si on valide et on vérifie, on valide et on vérifie les clients, c'est parce qu'on veut être payé, on veut faire de l'argent. Et donc, on doit vérifier que la carte crédit avec laquelle on paye, par exemple, soit la même, vienne du même pays qu'on dit qu'elle vient. Et donc, je pense que l'application de la loi, quant aux données WHOIS, il y en a trois raisons pour ce que je vais dire dans un moment, et je pense que mes collègues vont être d'accord. D'abord, c'est parce que on voudrait pouvoir contacter l'enregistrant, et ça pourrait être fait simplement, et ceci peut paraître incroyablement simple. Mais en fait, il y a des gens qui font des abus sur Internet et qui ont même reçu des abus. Et si on a une version plus complexe de ce qu'on voudrait pouvoir faire, on voudrait pouvoir contacter l'enregistrant pour que même si on a des informations fausses ou qui sont partiellement fausses, ça nous donne une information. Et même ces informations, si on a été soigneux, on pourrait identifier les mafias ou les bots du botnet qui nous enregistrent. Donc, si le WHOIS est valable pour quelque chose, je pense qu'on ne l'a pas dit assez. Et puis, mon deuxième commentaire, c'est parce que tout le monde le fait. C'est parce qu'on pourrait faire une validation à travers SMS. Et ce que Bill de PayPal a dit, et qu'on voulait s'assurer qu'on le représente à Costa Rica, et donc un système de pointage nous donne une flexibilité pour ceux qui n'ont pas le numéro de téléphone ou on n'a même pas une adresse e-mail. Et donc, on peut être sophistiqué en tant que modèle que Bill a surligné. Et puis, en troisième lieu, je veux dire pourquoi on doit améliorer ce numéro de 28%. C'est un point économique, en fait. Et c'est plus utile. Si on demande à toute la communauté de mettre en place ces pratiques, ceux qui veulent faire des abus vont être vus plus facilement. Et si on les met de côté, tous ensemble, nous allons résoudre ce problème. Je ne veux pas dire qu'on va résoudre le problème des crimes, mais on peut le mettre de côté. Et puis, la vérification de validation a de bons paramètres. On a de bons mesurements. Et si on pouvait publier ces numéros, on pourrait voir combien de points une personne a eu dans le modèle et l'avoir gratuit. et les enregistrants qui posent des problèmes pourraient ne pas être ici, bien sûr. Mais on peut améliorer la sécurité pour que les gens prennent de meilleures décisions. Et ce qui est encore plus important, et qu'au moment où j'ai parlé avec les gens de sécurité, j'ai appris que les noms de domaine sont considérés tellement toxiques en ce moment qu'on reçoit des emails de leur part qu'on n'apprécie pas, bien sûr, qui sont impolis en quelque sorte. Parce que les gens qui prennent des décisions de bloquer des noms de domaine, ceci est tout neuf. C'est-à-dire, ils bloquent des noms de domaine tout neufs et ils publient des qualifications. Si on pouvait prendre une décision plus informée sur la bonté ou pas d'un nom de domaine et d'un nouveau client, ceci va fonctionner pour ne pas lui porter atteinte. Merci. Oui, merci, Bénédicte Dickerpritz. Volker va faire un commentaire. Volker Kreiman prend la parole. Bien, merci, Bénédicte. On croyait que le sujet des qualifications n'était plus considéré avec les recommandations. Et c'est bon de voir que vous le considérez toujours du point de vue de l'application de la loi et que c'est valide pour vous. Bien, d'autres personnes se sont mises debout derrière Mike ici. Je vois. Oui, je veux clarifier qu'on a un besoin minimum quant aux marques. Et je veux vous rappeler qu'on dit qu'on devrait savoir quelque chose dans le champ, que ce ne devrait pas être vide. D'enregistrer un nom de domaine au nom de MI6 en Iran ou en Irak. Et ceci a été très bien fait. Et ces emails, ces adresses devraient être d'accord avec le format international. Merci. Je recommande, puisqu'on est toujours sur le même sujet, que tout le monde reste là où vous êtes. Nous avons une diapo de plus sur les problèmes de rétention de données qui ont trait un peu aux commentaires que vous avez faits. Et puis tout le monde pourra faire les commentaires qu'ils veulent sur les rétentions de données. Au moins, on pourra traiter ces problèmes. De cette façon, nous avons toutefois moins d'une demi-heure. Donc, je vous demande d'être prêt. Non, non, vous avez une mémoire très courte. Donc, Maji va passer quelques minutes pour vous poser les autres questions qu'on voulait présenter aujourd'hui sur la rétention de données. Vous m'entendez? Bien. Margie Millen prend la parole. L'autre problème par rapport à la validation de WHOIS et les recommandations d'application de la loi est la rétention de données parce que les recommandations disaient qu'on devait réunir des informations qui avaient trait aux enregistrants pendant une période de 2 ans après l'enregistrement. Et puis, c'est un problème avec lequel on a dû travailler depuis les dernières 2 années et ceci devrait être proportionnel aux objectifs inclus dans ces recommandations. Et puis, on a une question de lourdesse dans les droits de privacité des bureaux d'enregistrement et on pense que ceci devrait être considéré et qu'on voudrait avoir vos contributions là-dessus. Puis un autre aspect que vous n'avez même pas considéré est le problème de la conformité. On a des régimes internationaux qui ne permettent pas cette rétention de données pendant cette période. Mais on ne sait pas si les bureaux d'enregistrement devraient avoir des obligations différentes dans certaines juridictions où ils ne peuvent pas conserver les informations pendant 2 ans et ils doivent la conserver pendant moins de temps. Donc, on explore ces aspects lors des négociations pour voir si on a une façon de faire face à ceci Et si c'est une façon d'avoir un accord uniforme avec les bureaux d'enregistrement, si ce serait un concept à considérer lorsqu'on aborde les problèmes de conformité. Et puis l'autre aspect sur lequel on voudrait avoir vos commentaires, est si on a des contributions du GAC sur les vérifications et les clarifications de LE. On voudrait voir si le GAC soutient les recommandations que nous avons reçues ce dernier trimestre. Et puis, on voudrait aussi savoir comment vous croyez qu'on peut avoir des contributions des autorités de privacité de données. On voudrait savoir si vous avez des recommandations pour la façon dont on pourrait les inclure dans cette discussion pour qu'ils nous donnent leur point de vue par rapport aux besoins d'écriture dans le contrat pour être cohérent avec ces lois de protection de données. On va revenir à la queue. Bonjour, je voudrais revenir à la diapo d'avant. Bonjour, je suis Catherine Kleiman. Je suis un ancien membre de l'équipe de négociation et de révision WHOIS et cofondatrice des regroupements. Merci d'écouter nos contributions et de les considérer. Je vais essayer d'être rapide sans parler trop vite. Par rapport à la vérification des données WHOIS, vous demandez quelle vérification on devrait faire. Je dirais email ou téléphone parce que c'est le plus facile pour la sensibilisation et l'accès par rapport à ce problème. Parce que lorsque la vérification passe au WHOIS, il va être accessible publiquement tout le temps. Donc les États-Unis ont des téléphones privés et même des numéros de portable sont considérés des données privées. Et les gens sont très sensibles à cette privacité. Et on ne peut pas s'en servir. Mais en Europe, c'est l'adresse email qui est privée. Les gens ne sont pas tellement sensibles par rapport aux adresses email, mais aux États-Unis, ceci serait plus simple. Donc, je dirais qu'on aurait besoin soit du téléphone, soit de l'adresse email. Et si vous pouvez réunir les demandes de l'équipe, j'ai fait des recommandations pour éliminer ces aspects. Donc, l'accessibilité et la capacité de contact devraient aussi être considérées. Puis, par rapport au délai de vérification, je dirais le délai de résolution. Ça devrait être donc après la résolution. Avery a dit et Wendy a dit aussi quelque chose avec laquelle je suis d'accord. Je ne vais pas répéter, mais par rapport au problème des droits de l'homme et des délais, je pense que ça pourrait être un problème technique. J'envoie des emails tout le temps et parfois ils me sont rendus. Ce n'est pas un problème du nom de domaine. Ceci pourrait changer l'expérience de l'utilisateur dans le système de nom de domaine. Donc, ce discours devait être mis en place et ce problème de liberté d'expression devrait être résolu dès que possible. Je voudrais revenir sur la diapo suivante pour savoir comment les commissions travaillent et pour la sensibilisation et les personnes qui travaillent dans la commission de protection de données de contact. On a entendu parler d'eux et normalement, lorsqu'on voit qu'est-ce qui se passe, on ne participe pas d'une façon tellement active, aussi active. Mais dans toutes les communautés que je connais, les commissions toujours ont des différences d'opinion avec la communauté et ils doivent trouver l'équilibre. Et ici, c'est pareil. On devrait avoir cette conversation et pouvoir résoudre ce problème. Et en dernier, je voudrais parler des fournisseurs de services proxy. Ça ne devrait pas être une négociation bilatérale. Ce sera la première fois où on va établir des standards et pour la privacité et les proxys, et je voudrais voir que ceci soit une réalité en tant que processus de consensus parce que vous allez recevoir des contributions très utiles. Je pense que tout le monde devrait être inclus dans cette discussion. C'est nouveau et c'est un point de tournant. Merci, Catherine. Je pense que en tant que bureau d'enregistrement se sert de ces données autant que tout le reste du monde. Donc, je pense que ces données devraient être considérées à mesure qu'on revient sur un processus plus public. Kurt Pritz reprend la parole. Steve a dit qu'il voudrait voir comment inclure ceci dans le cycle de négociation et on voudrait voir comment on va parler de ce sujet dans le modèle ascendant que vous avez mentionné. Donc, Cathy, j'apprécie ta vitesse pour parler et j'admire le scribe qui peut la suivre. Donc, essayez de parler un peu plus lentement pour les scribes et pour les interprètes, mais si vous pouvez, soyez bref. Merci, je suis Joy Littycott et je vais parler lentement pour les scribes et pour les interprètes parce que l'accent de la Nouvelle-Zélande est toujours difficile à suivre. Je vous demande de défendre les droits de l'homme sur ce sujet. Les Nations Unies ont considéré les politiques publiques et les droits humains et les politiques publiques d'Internet, et on doit faire une analyse dessus parce qu'on comprend qu'il s'agit de la relation avec les ressources publiques globales et qu'on doit respecter et même défendre ceci. Et c'est un peu parce que le groupe de parties prenantes non commerciales encourage ICANN de rejoindre l'initiative globale. Et puis, en deuxième lieu, s'il vous plaît, toujours sur le sujet des droits de l'homme, ne laissez pas de travailler parce que ce sont des problèmes critiques tels que l'identification de bureau qui n'est pas requise par rapport aux ordres des tribunaux ou les personnes qui sont dans un programme de protection de témoins, par exemple, ne veulent pas donner leur numéro de téléphone et ceci constitue un viol des ordres des tribunaux de la part des bureaux d'enregistrement. Donc la vérification devrait être minimale. Et pour les officiers d'application de la loi, il paraîtrait que ce n'est pas juste pour les bureaux d'enregistrement et les enregistrants qui ne sont pas inclus dans ce niveau ou à niveau pays qui ont des standards différents de la part des bureaux d'enregistrement et au niveau des nouveaux GTLD. Donc, si vous voulez savoir comment inclure les officiers de protection de données, vous avez eu 18 réunions et ils sont toujours pas venus. Et donc, invitez les membres des commissions du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis à participer dans votre panel, à exprimer leurs opinions. Et j'encourage et j'insiste que l'ICANN devrait faire cela. Par rapport à la vérification annuelle, je pense que c'est un grand sujet et c'est un problème, bien sûr, pour les bureaux d'enregistrement. Et apparemment, ceci n'a pas de proportion avec le but que vous avez par rapport à l'application de la loi. Et en termes de privacité, de proxy, je suis d'accord avec cette discussion qui devrait être séparée. Et finalement, par rapport au point de vue des pays en voie de développement, sachez que dans d'autres parties au monde, tout le monde n'a pas de téléphone. Donc, on ne peut pas leur demander comme requis.
Bonjour, je suis Paul Freiband de Global Sign. Je voudrais poser une question. Pourquoi est-ce qu'il faut lister des données? Et ma question, est-ce qu'il faut vérifier ces données? Oui, si on veut lister des données, est-ce qu'il faut les vérifier? Et la question est aussi, est-ce qu'il faut que cela soit fait publiquement ou pas? Publiquement, ça doit être vérifié. Si ce n'est pas publiquement, cela doit aussi être vérifié. Parce que si ce n'est pas vérifié, c'est inutile. Il y a eu des questions sur la façon dont ça devrait être vérifié, dont ces données devraient être vérifiées. Il faudrait peut-être regarder dans l'industrie. C'est déjà là. On a la certification des autorités de certification, une industrie qui concerne les identités numériques sur Internet et sur la façon dont on vérifie qu'on est sûr qui vous êtes et si vous êtes vraiment qui vous êtes, qui vous dites que vous êtes. Cette industrie a un forum Cette industrie du CA a un forum, a des systèmes de validation qui définissent la façon dont les données doivent être validées pour qu'on puisse y faire confiance. Voilà, c'était ma question. Merci. Nous sommes Courte Pritz, merci. Nous sommes tous d'accord pour dire ne nous dites pas comment. On a un niveau comparatif avec Aiken, on est le niveau entrepreneur. Donc dites-nous ce que vous vouliez que nous fassions et vous allez voir qu'on le fera de différentes façons. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher une seule solution, il faut chercher une politique et ensuite on essaye de voir comment on peut vérifier. Donc je pense que c'est un des facteurs qui sont sur lesquels nous sommes d'accord. On va voir comment on peut le faire. Dites-nous ce que vous voulez faire. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est pourquoi on doit essayer de réinventer la roue, puisque l'industrie travaille sur ces problèmes depuis plus de 50 ans et sait comment le faire. Plus de 15 ans, pardon, et sait comment le faire. Donc, différents pays peuvent travailler ensemble. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut essayer de se mettre d'accord avec eux. Oui. Et Rob Hall. Oui, je pense que chaque registraire doit recevoir des emails de compagnies comme vous qui nous disent nous avons une solution pour vous, nous pouvons faire ceci ou cela. Nous sommes le groupe le plus varié qui existe dans ICANN. Nous comprenons la nature globale de tout cela. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les solutions, si elles existent. Mais on ne peut pas dire que, on ne peut pas répondre à la communauté, voilà, c'est ce qui va résoudre le problème. Bonjour, je suis Jeptive Newman. Je suis ici comme quelqu'un qui a négocié un contrat avec ICANN au préalable. C'est toujours une expérience agréable, intéressante. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont faire cette expérience après moi. D'abord, je pense que les registraires ne sont pas consultés et lorsque l'on crée un agenda, il faudrait voir comment on commente, dans quel ordre. Peut-être que les gens veulent juste venir faire des commentaires au micro. Hein. Donc, c'est une chose que je voulais dire. Ensuite, quelque chose qui a été dit, quelque chose qu'ICANN a demandé dans un rapport préliminaire, c'était changer la définition des politiques de consensus. Et au cours de ces quatre dernières années, la définition de ces politiques de consensus devait être la même pour les registraires et pour les registrants. Il doit y avoir des registres, des registraires, des registrants, etc. On nous a dit ça. Mais c'est intéressant de voir que ICANN a ajouté ici autre chose et a dit que les politiques ne doivent pas être considérées comme l'accord dans sa totalité. Tout entre dans la portée de ces politiques de consensus. Je ne sais pas si cette demande a été faite, mais je pense que ça devrait figurer. Et je demande à ICANN, s'il vous plaît, enlevez ça ou expliquez-nous pourquoi il faut le modifier. Ensuite, la deuxième chose, et si on lit la définition, il est dit que si les modèles de business changent avec le temps, ICANN doit changer cet accord. Si ICANN veut modifier cela, des millions de dollars, des compagnies, et tout cela va détruire ce modèle. Donc, le registraire est libre de rentrer dans ce nouveau modèle, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose que je voudrais essayer par rapport à l'accord des registres, le nouvel accord de registre, lorsqu'on a réalisé que ça n'avait pas de sens. Mais si on ne peut pas s'en débarrasser, je demanderai qu'il y ait des pouvoirs mutuels. Donc, dans la mesure où ICANN n'est plus l'organisation et qui va donner une accréditation registraire, à ce moment-là, le registraire peut révoquer cet accord et ICANN pourra donner son avis là-dessus. Jeff, juste une petite chose. Je voudrais défendre ICANN là-dessus, dit Rob Hall. Hein. Nous n'allons pas parler de cela. Il y a des discussions limitées pour voir si on peut répondre ou résoudre cette grande différence qui existe entre nous Il y a bien sûr eu un programme qui a été établi par ICANN et il y a quelques temps, on en a parlé. Et de toute façon, nous allons travailler là-dessus. Bien, je voudrais dire que je suis d'accord avec ce que Rob a dit. Ce que ICANN va faire, c'est de proposer un rapport, une solution préliminaire. Et quelque chose que vous avez souligné et figure dans, dans cette solution préliminaire. Bien, je le pense aussi parce que j'ai entendu vos commentaires. Et la raison pour laquelle nous avons choisi cette question, c'est parce que la négociation est dépend des résolutions prises pour ces questions. Et une fois que ces résolutions seront prises, il y aura une opportunité pour faire des commentaires ou aborder tous les AP de l'accord et qui seront négociés. Donc, il faut voir comment on peut avoir une discussion publique sur cette question. Judith Weisgeist. Je parle comme registrante. Le nom de domaine qui a été créé requiert une prévérification avant la résolution de domaine. Et Bénédicte, je m'excuse de dire cela, mais j'ai un problème dans la possibilité de mettre mes informations de contact sur Internet. Si vous m'appelez, je ne pourrai pas vous croire. Il y a une question ici de confiance, mais j'aurai confiance, devrais avoir confiance dans mon registraire. Donc, cela m'amène à un point important et l'importance du RAA de notre contrat. Tous les contrats se focalisent sur la confiance, se basent sur la confiance et sur les meilleures pratiques commerciales. Donc, les opérations de procédure qui changent dans le temps et donc, il nous faut avancer dans ce domaine aussi. Merci. Merci, Judith. Mike Bullich. Trois points ici. Le premier point, en ce qui concerne la question des vérifications de l'email, des vérifications des appels avant la résolution. Et est-ce que je pense que c'est un peu ironique parce que les raisons pour lesquelles les registres de GTLD font d'autres choses et comme ça on voit que je suis un registre. Donc c'est un peu ironique de voir que ce registre en particulier est souvent diminué. Il y a une question difficile ici, mais en réalité il y a un standard d'or ici. Hein. Il y a trois standards. Ils font ce que Monsieur demande. On fait une vérification. Donc, je pense que c'est important. Il ne faut pas discuter de cela dans le vide. Il faut voir ce qui a été fait sur le marché. Donc, ça nous amène au point 2. Au cours des 12 dernières années, j'ai travaillé avec la moitié des nouveaux GTLD, des registres de nouveaux GTLD d'ICANN et j'ai vu entre 100 et 150 candidatures et ce qui m'a encouragé à voir que beaucoup de candidats étaient et voulaient faire les choses correctement. Donc pour moi, c'est une validation de ce que ICANN veut faire, le secteur privé, l'innovation du secteur privé et des nouvelles choses. Donc, la prudence que je voudrais ici dire, c'est qu'on est à un carrefour ici. On peut affronter ce problème. C'est un problème et je soutiens le IPC, je soutiens l'application, mais il y a deux façons d'affronter ce problème. La première est de s'asseoir ici, d'avoir des données additionnelles, d'essayer des différents modèles, laisser le secteur privé travailler, ça serait la première option. Et la deuxième, c'est d'avoir une solution de haut en bas et dans laquelle nous n'avons pas toutes les données, dans laquelle ça va être créé dans le vide. Et je vous dis que si on descend de la solution de haut vers le bas, dans laquelle on n'a pas toutes les données, c'est développé dans le vide, on va avoir un problème au niveau numérique. Donc, de nouveau, je dirais, voyons les données, essayons de ne pas développer tout ça dans le vide. Le troisième point, à nouveau, je l'ai dit au préalable, je pense que le souci d'application dans le IPC est valable. L'industrie non-domaine n'est pas un seul scénario, c'est un mélange. Les gens essaient de faire et d'améliorer les choses. Et le point ici que je voudrais aborder ici, il y a 5 ans, un des problèmes dans le nom de, dans l'industrie du nom de domaine était le testing, le testing du nom de domaine, les essais de nom de domaine. C'était un problème. Et donc, ce qui arrivait, c'était qu'un groupe de registre, moi-même et Jeff Looming, nous nous sommes réunis, nous avons proposé de travailler pour affronter ce problème. Et ce qui a été ironique, c'est lorsque nous avons mis en place un système, une proposition à affiliate, ça a été, et on nous a dit que l'IPC et que nous légitimions le système de domaine test, de testing de domaine, parce que quelque chose s'est passé, ça a marché, et le problème du testing de domaine, de non-domaine, c'était terminé. Donc, je pense qu'il faut arriver à des politiques de consensus. Il faut donner la possibilité à certains modèles de fonctionner. Ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne. On m'a dit que vous étiez, qu'il était le dernier. Bien, je vais être brève. Je suis Joyce Lane. J'ai un souci au niveau de la résolution des noms de domaine parce que je pense que si on considère le nom de domaine comme quelque chose dans lequel on a la liberté de parole et la liberté de commerce, alors il faut être de bons acteurs. Il y a des bons acteurs et des mauvais acteurs dans l'industrie des noms de domaine. Un petit pourcentage de mauvais acteurs. Et donc, il faut les empêcher d'exprimer leur opinion. Donc, dans d'autres termes, si nous faisons cela, nous approuvons et nous disons que tout le monde est coupable avant de dire que vous êtes innocent. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne approche et on ne sait pas vraiment si ce que vont faire ces noms de domaine, parce que je suis sûre que le secteur de la loi est aussi soucieux de ces mauvais noms de domaine. Donc, ça m'inquiète, cette résolution m'inquiète. Et en deuxième lieu, je dirais que je voudrais entendre davantage parler des difficultés de respect de la loi lorsque on essaye de et chasser ces mauvais acteurs du marché. Je suis presque sûre qu'à l'origine, et les raisons pour que tout cela ait lieu, c'est qu'il y a eu des problèmes. Donc, nous n'entendons pas beaucoup parler du type de problèmes, du type de difficultés qui existent. À mon avis, c'est mon connaissance limitée concernant la loi. Il y a beaucoup d'outils, On passe beaucoup de temps à chasser les mauvais acteurs. On pourrait aller voir les registres et leur dire « ce site est illégal, il fait du phishing ou il fait des choses comme ça, donc éliminons-le ». Donc, essayez de voir les noms de domaines suspects et essayez de les retirer, et si on est sûr qu'ils sont coupables. Donc, ce serait un outil beaucoup plus utile que d'essayer de douter de tout le monde, de soupçonner tout le monde en cherchant quelques coupables. Merci. Nous n'avons que quelques minutes. Je vais être bref. Rob Gowling de Technology System. Je représente un registraire accrédité par ICANN et nous devons essayer de trouver une position. Nous savons qui sont nos clients, nous savons qui sont les registraires et nous savons qu'est-ce que c'est que le registre. Et pourtant, nous essayons nous n'essayons pas de restreindre l'activité des criminels qui existent. Donc, nous voulons un système de WHOIS dans lequel nous puissions avoir confiance. Et le registre ne publie pas d'informations. Et le WHOIS épais, les registraires ne s'en occupent pas. Et on essaye de déployer des informations et de façon illégale en contravention avec les lois de vie privée de beaucoup de pays. Les registrants ne s'en occupent pas et dans la mesure où les autres questions sont réglées. Les membres du comité en comme partie contractante des RAA, je demande qu'une position soit prise et qu'on discute de ce qu'on veut faire maintenant, non pas pour discuter ce que les parties non contractantes veulent faire. La loi doit nous protéger et je ne dirais pas qu'au cours de ces années, nous avons reçu des emails. Nous allons recevoir des emails et je ne dirai pas le fait que la majorité exploite des sites en ligne et n'ont rien à voir avec cela. Et je ne vous dirai pas que si j'avais des preuves de l'illégalité, je n'aurais pas les informations dont j'ai besoin. Donc je pense que c'est le moment de travailler sur le WHOIS. Ce WHOIS n'est plus à l'ordre du jour et il ne fonctionne pas bien. Nous réduisons le coût des registraires, des registrants et le coût de ICANN et des registres. Merci. Bien. Les derniers mots. Je suis Bill Smith de PayPoint. Je peux vous dire que je ne suis pas pour la loi, mais finalement, nous utilisons des informations et nous utilisons des informations pour profiter, protéger l'identité de nos clients. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire avec WHOIS pour permettre à nos chercheurs, aux personnes qui font des enquêtes, de protéger le consommateur, nous serions ravis de pouvoir le faire. Je voudrais faire un dernier commentaire. Je voudrais répondre à un commentaire de Jeff Newman concernant la proposition d'ICANN pour déterminer le contrat avec le registraire. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des données et divulguer. Et actuellement, avec le RAA 2009 et le RAA 5.2, il y a des terminations faites prises par ICANN qui limitent la façon dont ICANN peut terminer, peut conclure l'accord. Les registraires peuvent conclure leur accord. C'est une corporation qui existe, qui a un intérêt important par rapport à un grand nombre de registraires. Les registraires ont des intérêts pour continuer à opérer. Ils peuvent conclure leur accord en 30 jours, donc pour une période de 30, dans une période de 30 jours. La seule chose que le registraire peut faire, c'est transmettre cela à ICANN. C'est très long et il y a un autre exemple, à mon avis, dans l'opinion de PayPal sur la façon dont ce contrat doit être renégocié et qu'il faut équilibrer cette équation. Merci. Bien, je voudrais remercier tout le monde pour votre contribution. Nous avons quelques paroles de conclusion. Si vous voulez bien rester assis, hein, comme ça nous allons conclure. Est-ce que Volker, est-ce que vous voulez conclure? Bien, je voulais juste parler un petit peu de la question de l'adoption de ces amendements au niveau universel. Et tel que c'est maintenant, nous avons des registraires pour l'accord de 2009, nous avons des registraires pour l'accord de 2001. Et donc, il y a beaucoup d'amendements proposés qui ont été discutés ici. Certains ont été profondément discutés et créé un nouvel accord. Nous pensons que il y a trois accords de registraire possibles avec différentes obligations pour les registraires en fonction des différentes possibilités de renouveler leur accord originel. Ça n'a pas beaucoup de sens et ça ne comprend pas l'objectif de l'amendement. Donc, ce que nous cherchons, c'est une méthode ou une manière d'assurer que tous les registraires vont être requis, vont devoir appliquer ces nouvelles politiques une fois que cela fera partie du nouvel RAA ou une fois que le nouvel RAA aura été donc adopté. Nous avons une série d'options disponibles. Je pense qu'une des plus valables sont la limitation des termes de nouvelles accréditations une fois que les nouveaux accords auront été faits pour assurer que une fois que ce nouvel accord est signé, il doit être signé par le registraire tous les accords. Hein. Une autre chose, je ne sais pas comment ça va marcher, mais nous pouvons en discuter. Nous avons parlé des encouragements, d'encourager les registraires à adapter les RAA. Ça donne lieu à une situation dans laquelle notre politique, on devrait après une série de politiques pour les registraires qui vont suivre, le processus a été proposé. Il y a beaucoup de questions ici au niveau de la communauté des registraires parce qu'on pense que cela ne correspondrait pas au contrat, aux conformités, aux politiques, aux façons de politique de mettre en œuvre de nouvelles prérequis, de nouvelles exigences. Et donc, de nombreux registraires se font du souci là-dessus. Et il y a eu des propositions pour que tous les registraires qui veulent être enregistrés dans le cadre de ce nouvel accord de GTLD vont devoir appliquer cet accord. Il faut créer un équilibre entre les GTLD et les nouveaux GTLD. Je ne suis pas sûre que ce sera dans le bénéfice des nouveaux GTLD de toute façon. Donc, nous sommes en train de voir toutes ces options, de les analyser. Nous vous demandons de penser à d'autres options qui pourraient assurer que les registraires qui entreront dans ce nouveau régime, des nouveaux RAA, quel que soit leur aspect. Nous ne parlons pas ici de contenu. Ce serait tout ça en même temps. Donc, une des parties ici est Becky Bercher qui voudrait faire un commentaire avant qu'on conclue. Je voudrais préciser une chose. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la proposition faite par ICANN et ne tient pas compte de la façon dont nous sommes en désaccord. Mais en ce qui concerne le commentaire de Jeff, et je pense qu'il y a une nouvelle résolution qui a été prise et je ne suis pas sûre que ce commentaire, je ne pense pas avoir de raison, en tout cas, pour penser que c'est une des raisons qui nous empêche d'avancer. Donc, je voudrais que les gens s'occupent de cette résolution, s'intéressent à cette résolution parce qu'elle est importante, à mon avis. Merci, Vaki. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci de rester ici. Ces négociations vont continuer et nous allons encourager des commentaires additionnels, notamment sur les questions discutées sur le wiki de la communauté. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons publier un accord de négociation pour les sessions additionnelles dans les commentaires publics. Et nous pouvons à ce moment-là avoir des améliorations une fois que nous aurons l'approbation du directoire d'ICANN. La prochaine étape sera un PDP du GNSO qui doit être discuté, qui doit discuter les problèmes qui n'ont pas été abordés ici ou tout autre problème. Donc, merci beaucoup à nouveau. Merci aux membres de ce panel qui ont répondu à vos questions. Je sais que tout le monde est très occupé. Merci beaucoup.
Ladies and gentlemen.
Messieurs, dames. À la sortie de cette salle, on vend des sandwichs, si vous voulez, et manger, ce sera un endroit possible. Merci. La prochaine session dans cette room, dans cette salle sera éthique et conflit d'intérêts.
Question. If any of you have picked up a part...
Si vous avez trouvé un stylo par cœur dans les cabines. Il appartient à un des PDG de cette cabine. Donc, si vous avez trouvé le stylo et vous l'avez amené par erreur, s'il vous plaît, passez-le moi. Je suis à côté des cabines d'interprétation.